Ajoutez sur nos ondes. Cheese te recommande avec son émission Plein son sûr d'écouter un album en entier. Plein son sûr tous les vendredis de 10h à 11h à Cheese 94.3.
De la réveillage Saint-Charles, boisé sur le slide, la musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Voyons, comment ça, ça marche pas? Hey Sophie, essaye donc de chazamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est Cain.
Cain? Hey boy, on est loin d'embarque ma belle.
Quand vous vous demandez
« C'est quoi cette toune-là? »
Ne faites pas comme Adrien et Sophie. Allez plutôt sur cheese.ca et cliquez sur l'onglet « Musique diffusée ». Bonne écoute!
Il est 4 heures.
Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Chérie J'arrive. Certains d'entre vous me reconnaissent probablement puisque je suis un habitué de l'émission. D'autres font possiblement ma connaissance aujourd'hui. Je me présente Alex Tremblay-Lamarche. Je suis chroniqueur littéraire à Chérie J'arrive les jeudis et Félix m'a aujourd'hui confié la mission de le remplacer pour cette dernière émission de Chérie J'arrive avant les fêtes. C'est donc toute une mission qui m'attend, mais je ne doute pas que je saurai vous faire passer une belle heure et demie en ma compagnie, puisque aujourd'hui on a un programme chargé de la musique québécoise et française émergente, de la littérature, des essais pour réfléchir et pour s'évader pendant le temps des fêtes. Et donc, avis aux amateurs de livres, vous risquez d'y trouver votre compte. Et donc, c'est parti. On va commencer par quelques livres, puisque, bon, ben, comme vous le savez, je suis un amateur de littérature, je suis un amateur d'essais. Et avec le temps des fêtes qui arrive, eh bien, ce n'est pas le temps qui va nous manquer pour lire. Malheureusement, comme vous le savez probablement, si vous suivez un peu l'actualité, c'est fini pour les moyens partés. On va plutôt devoir se contenter de petits partés pour paraphraser notre premier ministre. Et on va malgré tout avoir quand même un temps des fêtes qui devrait ressembler à quelque chose, mais peut-être plus de temps pour lire qu'on pouvait le penser. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 6 ouvrages et on va le faire tranquillement en écoutant un peu de musique et en jasant entre nous de ces ouvrages-là. Et pour commencer, 2 ouvrages qui nous font réfléchir sur les questions féminines et féministes. 2 ouvrages dont j'ai envie de vous parler, c'est-à-dire... voyons, c'est pas celui-là. Il est ici, oui. Qui a peur des vieilles de Marie Charelle et une histoire sociale de la prostitution Montréal 1800-1850 de Marianne Poutanen. Et donc, on commence avec Qui a peur des vieilles de Marie Charelle. C'est un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Pérégrine en France et qui a un titre, on se le cachera pas, quand même un peu provocateur, Qui a peur des vieilles et qui réfléchit sur la vieillesse, la stigmatisation de la vieillesse, mais particulièrement la stigmatisation de la vieillesse féminine. Parce que, bon, si, comme moi, vous êtes un observateur attentif de l'environnement dans lequel vous évoluez, on va souvent entendre parler « Ah, c'est un homme qui vieillit bien. Ah, ses cheveux argentés lui font bien. Il est beau, il projette un certain sex appeal malgré ses rides. » Alors que dès qu'une femme vieillit, eh bien, on est assez rapide à la remettre en question, à vouloir la tasser loin des micros lorsqu'elle œuvre dans la sphère publique, à vouloir également, bon, la tasser loin
de la vie sociale, tout simplement. Les préjugés sur les femmes plus vieilles abondent. Ils sont intériorisés depuis fort longtemps. Vous avez probablement déjà entendu votre mère ou une tante dire « Ah, mais ça, cette petite robe-là, c'est pas pour moi. J'aurais pu la porter plus jeune, mais là, à mon âge, je peux plus vraiment porter ça. » Ou « Je suis rendu à un âge où il faut plutôt que je porte des maillots et une pièce. » Mais pourquoi? Pourquoi un homme ne va que très rarement remettre en question le vieillissement de son corps, alors qu'une femme va plutôt très facilement être amenée à remettre en question son corps. Même chose, pourquoi existe-t-il des préjugés sur les cougars? On va toujours le dire avec un petit sourire dans la voix, alors que dès qu'un homme sort avec une femme plus jeune, eh bien, on considère que c'est la normalité. Ce sont ces choses que Marie Charelle décrypte dans son premier essai, qui a peur des vieilles. Marie Charelle, peut-être pour vous la situer un peu, je ne la connaissais pas, je le confesse, avant de me plonger dans son ouvrage. C'est une journaliste économique âgée de 39 ans. Elle travaille au journal français bien connu Le Monde et elle écrit également des romans. Et dans cet ouvrage, comme je le mentionnais, elle nous fait réfléchir sur l'âge des femmes, sur les produits qui existent pour combattre l'âge, combattre les rides. Ce serait un marché juteux de plus de 100 milliards de dollars dans le monde. Et pourquoi est-ce qu'il existe un marché aussi important? Eh bien, c'est parce que dès l'âge de 6-7 ans, les petites filles, on les amène à être des regardées, alors que les petits gars, on les amène plutôt à être des regardeurs. Donc, il y a des raisons sociologiques derrière ça qu'elle expose très bien dans son ouvrage. Et elle nous entraîne tout au long de son ouvrage grâce à une analyse fine, mais également grâce à des témoignages de chercheurs, de femmes d'un certain âge, de vedettes, notamment Monica Bellucci qui se confie à elle, mais également plusieurs autres femmes. Elle nous permet de démystifier un petit peu, est-ce qu'on devient passé date lorsqu'on arrive à la ménopause comme la société veut nous le faire croire, ou est-ce qu'au final, on n'est pas plutôt dans un autre paradigme qui commence, qui pour le mieux? Parce que qui dit sexualisation outrancière de la femme, qui dit que, elle est stigmatisée lorsque, elle commence à vieillir un peu, dit également que le rapport de force avec les hommes change. À partir du moment où la femme n'est plus regardée comme un objet sexuel, mais vue plutôt comme une égale, le rapport de force entre hommes et femmes change. De plus, comme le mentionne Marie Charelle, la vieillesse a tendance à androgyniser les corps. Les formes féminines s'atténuent, les formes masculines s'atténuent. Et donc, on arrive à un âge où, au final, les femmes sont souvent plus épanouies, plus en paix avec elles-mêmes, à un âge où elles ne sont plus regardées comme des proies potentielles par les hommes. Donc, il y a ce paradoxe de voir d'une part des femmes avoir une pression constante de rester jeune, de rester belle, alors qu'au final, si elles acceptaient, mais si la société acceptait de les voir vieillir naturellement, on serait peut-être plus heureux. C'est un ouvrage que je vous recommande vivement. Ça se lit bien, des chapitres quand même assez courts qui sont émaillés de différents témoignages et qui nous permettent d'en apprendre un peu plus sur cette problématique particulièrement d'actualité. On se dirige maintenant avec un deuxième ouvrage, une histoire sociale de la prostitution, Montréal 1800-1850 de Marianne Puttenen. Marianne Puttenen, c'est une historienne bien connue dans le milieu de l'histoire. C'est une spécialiste de l'histoire des femmes, de l'histoire sociale. Et en 2015, elle a publié un ouvrage particulièrement important sur l'histoire de la prostitution à Montréal, Beyond Brutal Passion, Women, Prostitution in Early 19th Century Montreal. Et vous me voyez venir, cet ouvrage publié chez Remue-Ménage est une traduction française de son ouvrage originalement paru en anglais. On est donc particulièrement heureux de voir ce livre paraître dans la langue de Molière. Pourquoi? Parce que c'est un livre important qui, déjà en 2016, remportait le prestigieux prix Lionel Groulx de l'Institut d'histoire de l'Amérique française, qui, bon, a permis de mieux connaître l'histoire des femmes à une époque charnière. On passe d'une époque où les femmes étaient principalement dans le milieu, dans un milieu rural, où, ben, tranquillement, elles migrent vers les villes. Des villes comme Québec et surtout Montréal se développent à la faveur d'une proto-industrialisation et les choses changent. Et avec les choses qui changent, eh bien, les femmes ont besoin de se refaire un réseau de protection, un réseau de solidarité, de sororité, et certaines vont se tourner vers la prostitution pour gagner une liberté. Parce qu'on a souvent l'impression, on a souvent une vision un peu misérabiliste des prostituées en faisant, bon, pauvre elle, etc., etc., faut régler ce problème, faut aider ces femmes. Or, et c'est là le génie de Marianne Puttanen, elle a une vision qui est ni misérabiliste, ni glorificatrice. Elle montre que, bon, ce sont des femmes qui en arrachent, mais qui tentent du mieux qu'elles peuvent de s'en sortir en recourant, dans certains cas, à la prostitution. Qui sont ces femmes? C'est là l'objet, bon, de la première partie de son ouvrage. Ce sont en grande partie des Canadiennes françaises, mais aussi des immigrantes irlandaises. Faut se rappeler qu'à partir des années 1820-1830, il y a des problèmes en Irlande qui font que beaucoup de femmes et d'hommes de ce pays immigrent vers le Canada, et certains se retrouvent à Montréal et n'ont pas vraiment de réseau, pas vraiment de possibilités, et donc elles se retrouvent un petit peu dans le pétrin et vont devoir aller vers ce métier. On voit également des femmes qui tentent de retrouver un peu de pouvoir sur elles et de contrôle sur leur corps. Ça peut paraître paradoxal de dire ça comme ça, mais il faut se replacer dans le contexte. On est dans un système patriarcal et les femmes qui sont mariées, bon, sont dorénavant sous la tutelle de leur mari. Et bon, quand on est avec un mari avec qui ça va relativement bien, bon, ça peut aller encore. Mais lorsqu'on est face à un mari violent, lorsqu'on est face à un mari avec qui ça ne va pas du tout, dans une société où le divorce n'est pas possible, eh bien, certaines femmes vont devoir décider de s'enfuir ou décider de vivre parallèlement et, pour avoir des revenus, se tourner vers la prostitution. C'est intéressant aussi parce qu'on découvre que la prostitution à Montréal, à cette époque-là, elle prend différentes formes. Elle peut être le fait de prostituées qui, bon, œuvrent dans les rues, tout comme elles peuvent être le fait de prostituées qui œuvrent chez elles ou en maison close, donc les bordels. Et on voit que le regard que posent les gens sur la prostitution n'est pas le même en fonction de la visibilité qu'il a. On est, comme je mentionnais, dans une société qui est en train de s'urbaniser, de devenir de plus en plus, où les villes sont de plus en plus peuplées. Et une ville comme Montréal va être jugée par ces nouvelles élites comme étant un lieu de débauche. On ne peut pas accepter que des femmes de mauvaise vie traînent dans les rues. Et donc, on va avoir une volonté de faire disparaître cette prostitution visible, particulièrement celle qui est dans la rue, alors que celle qui est dans les maisons closes, eh bien, on va être un petit peu plus tolérant face à elle. Donc, une première partie qui nous permet de comprendre qui sont ces femmes, où habitent-elles, comment les lieux qu'elles fréquentent et les lieux où elles offrent leurs services évoluent entre les années 1800 et 1850. Et une deuxième partie qui pose un peu plus le problème de comment les prostituées, la prostitution est-elle jugée face à la loi? Et donc, dans cette partie-là, on apprend plein de choses particulièrement intéressantes parce que, bon, on a toujours cette image du policier qui va arrêter la prostituée ou cette image du policier un peu corrompu qui va tenter d'en profiter. Or, la réalité est beaucoup plus complexe et Marianne Puttanen, en se plongeant dans les sources judiciaires, elle a été capable de bien mettre de l'avant à quel point les rapports entre ces femmes et l'État et également, bon, les forces policières sont éminemment complexes. Faut pas oublier que les forces policières sont souvent formées d'hommes qui sont issus des mêmes classes sociales que ces femmes-là. Donc, les classes populaires, les proto-classes ouvrières. Et donc, dans certains cas, ça va amener certains de ces hommes à vouloir abuser de ces femmes, à installer un rapport de force. Mais dans d'autres cas, ça peut amener une certaine forme de bienveillance, comme ils sont issus d'une même classe sociale et que même s'ils ne sont pas au service des mêmes intérêts, eh bien, il y a une volonté de protéger les gens issus de son milieu. On découvre également que la prison est loin d'être nécessairement le lieu de punition auquel on pourrait penser aujourd'hui. Si on vous dit qu'on vous amène en prison, vous allez en être fort probablement bien peiné. Alors que si vous êtes une femme qui vit dans la rue en 1820, qui attend un enfant et qu'on est rendu au mois d'octobre, au début du mois de novembre, que vous n'avez pas d'argent pour vous trouver un loyer, que vous allez devoir vraisemblablement accoucher possiblement seul dans la rue, eh bien peut-être que de passer l'hiver en prison va être pour vous une forme de libération, une forme de sécurité. Vous allez y avoir accès à un médecin qui va pouvoir vous aider dans votre accouchement. Vous allez y avoir accès à un toit, à une certaine chaleur. Oui, c'est sûr que ça vient avec une contrainte, mais également, vous allez avoir de la nourriture. Et donc, on voit que la prison est loin d'être un lieu de punition nécessairement, mais qu'elle peut également servir de refuge à ces femmes. On voit également que il y a toujours l'espèce d'éternel dilemme pour les autorités. Est-ce qu'on tolère la prostitution et donc on est capable d'avoir un certain contrôle dessus, ou au contraire, est-ce qu'on la bannit complètement? Et dans ce cas-là, bien, on perd possiblement le contrôle qu'on pourrait avoir dessus parce qu'elle va se faire de façon clandestine. Et derrière ces questions-là, il y a des questions notamment de santé publique, de nuisance, de gestion, d'ébriété. Et donc, c'est toutes ces questions-là qu'on voit. On apprend aussi que c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu qu'on pourrait le croire. On a toujours l'impression que c'est le fait de quelques femmes, mais à une époque où Montréal compte entre 20 000 et 40 000 personnes, on constate, Marianne Poutanen constate qu'il y a 4 500 infractions qui vont être données à 2 000 femmes. Donc, c'est immense. C'est entre 5 et 10 % de la population qui est justement dans ce milieu. Là, c'est symptomatique d'une ville qui, est un peu en crise sociale, si je peux m'exprimer ici, même si, dans les beaux quartiers, on ne s'en rend pas nécessairement compte et que, l'histoire se concentre souvent sur une trame politique, eh bien, les classes populaires en arrachent et tentent malgré tout d'avoir un certain contrôle sur leur vie. Et donc, c'est une solution ou un mode de vie vers laquelle certaines femmes vont se tourner. C'est quelque chose que c'est un ouvrage que je vous recommande fortement pour en apprendre plus sur un pan important de l'histoire de Montréal, un pan important de l'histoire des femmes au Québec, mais également pour faire un exercice d'empathie, j'aurais envie de dire, parce que de découvrir la débrouillardise de ces femmes, de découvrir ce que ces femmes ont pu vivre grâce aux archives judiciaires, j'ai trouvé ça particulièrement émouvant et je vous recommande Une histoire sociale de la prostitution, Montréal 1800-1850, publié aux éditions Remus Ménage. Eh bien, sur la fin de ce bloc féministe et sur les études des femmes, eh bien, j'ai envie de vous envoyer en musique avec une œuvre de Marie-Annick Lépine. Marie-Annick Lépine, vous la connaissez probablement sans la connaître, puisque c'est une des membres des Cowboys Fringants. Elle y joue du violon et chante. Mais elle a également une belle carrière solo qui passe un petit peu des fois sous le radar, mais qui gagnera à être davantage connue. Elle vient de publier il y a quelques semaines, son troisième album solo, De Beau Rivage à l'Ange Gardien. gardien, dans lequel elle parle de plusieurs enjeux qui la touchent actuellement, notamment l'avenir de ses parents, les souvenirs d'enfance, etc., etc. Et de Beau Rivage à l'Ange Gardien, ça fait référence aux rues Beau Rivage et l'Ange Gardien qui se trouvent à l'Assomption dans le quartier où elle a grandi. Et dans la chanson « Tu veux rester », elle parle justement de ses parents qui aimeraient rester dans la maison familiale où ils ont élevé leurs enfants, mais qui vieillissent et qui arrivent forcément à se poser des questions. Et donc, « Tu veux rester » de Marie-Annick Lépine, issue de son nouvel album de Beau Rivage à l'Ange Gardien. On écoute ça et on vous revient tout de suite après.
Sous les branches du pommier où les fruits sont piqués, toi, tu veux rester. Les volets démodés, tout a rénové, mais tu veux rester. Malgré les fissures, l'usure des années, toi, tu veux rester. Pour la rue, tes voisins, enfin les témoins des heures passées. Dans cette maison qui fut le foyer.
C'est plus Salut, ici Philippe Braque et vous écoutez une radio tout sauf parler. Voici Chiz à 94.3.
Toujours sur les ondes de Chiz 94.3, comme vient de vous le rappeler Philippe Braque. Vous écoutez Chérie J'arrive et aujourd'hui, vous n'êtes pas en compagnie de Félix Duchesne, mais vous êtes plutôt en compagnie d'Alex Tremblay-Lamarche, chroniqueur littéraire à Chérie J'arrive depuis déjà quelques années. Et ceux qui me suivent le savent, j'aime beaucoup lire des essais. J'aime beaucoup la littérature qui nous amène à réfléchir. Et aujourd'hui, je me fais plaisir et j'espère que je vous fais plaisir également en vous offrant quelques suggestions littéraires pour les fêtes. La prochaine suggestion dont j'ai envie de vous parler est un ouvrage du philosophe et essayiste Alain Deneau, Bande de colons, une mauvaise conscience de classe, publié chez Lux. Plusieurs d'entre vous connaissez probablement Alain Deneau. Il est l'auteur notamment de Noir Canada, publié chez Co-Société, de La médiocrité, publié chez Lux, et également de plusieurs autres ouvrages qui ont fait couler beaucoup d'encre pour la remise en question de la société dans laquelle on vit, qu'il nous propose. Et dans Bande de colons, une mauvaise conscience de classe, eh bien, il s'intéresse au colonialisme. Si vous suivez l'actualité un peu, eh bien, vous savez probablement qu'on est toujours un peu en train de parler de colonialisme, des rapports aux Premières Nations, également d'un certain colonialisme exercé par le Canada anglais, par l'Empire britannique sur les Canadiens français. Et Alain Deneau nous propose dans cet ouvrage de réfléchir à la notion de colonialisme en nous donnant quelques exemples concrets. Les premiers chapitres traitent donc du colonialisme. On a souvent eu tendance à s'intéresser d'une part aux colonisateurs. L'Empire britannique qui arrive ici, qui met en place une administration et qui va exploiter le territoire. Même chose du côté de l'Empire français et d'autre part aux colonisés. L'Autochtone, les Premières Nations, les populations africaines du côté de l'Afrique. Et on a souvent eu tendance également à présenter plutôt les Canadiens français comme décolonisés. C'était notamment le propos de Pierre Falardeau tout au long de sa vie, particulièrement dans un de ses documentaires. Mais les Canadiens français se trouvent plutôt dans une position intermédiaire, avance Alain Deneau. Ils sont dans la position de colons. Ce sont ces gens qui sont envoyés par les colonisateurs pour exécuter leurs œuvres, mais qui ne sont pas nécessairement du côté de l'administration coloniale. Donc, ce n'est pas des gens qui sont là pour venir gérer les choses, puis repartir à Versailles ou repartir à Londres et continuer à grimper dans l'échelon social. Non, c'est plutôt des gens qui viennent dans un endroit, s'y installent et espèrent être capables d'avoir une meilleure vie. Ce sont des gens qui ont souvent été présentés comme des héros, des figures courageuses. On pense notamment aux filles du roi en Nouvelle-France, aux soldats du régiment de Carignan-Salière ou plus récemment, lorsqu'on va dans des régions comme l'Abitibi, les premiers colons qui s'y installent, qu'on a tendance à héroïser. Or, Alain Deneau nous dit que ces gens-là, ils sont plutôt en grande partie des opportunistes, des gens qui vont profiter du système, qui se retrouvent dans une position intermédiaire. Ils sont effectivement... ils profitent du colonisateur sans pour autant, en fait, en profiter autant que lui. Mais en même temps, ils ne sont pas nécessairement opprimés comme le colonisé. Et donc, ça les amène dans une position ambiguë qui est assez intéressante et enfin, assez intéressante à analyser, mais peut-être moins intéressante à vivre et à être. Et donc, la question qu'Alain Deneau pose, c'est qu'au final, est-ce que, les Canadiens français ne seraient pas qu'une bande de colons, dans le sens, effectivement, qu'ils sont entre le colonisateur et le colonisé? La question est assez intéressante et vaut la peine qu'on s'y intéresse. Il présente aussi les Autochtones, dans un premier temps, comme étant
des colons en puissance, si je peux m'exprimer ainsi, dans la mesure où les Français qui viennent s'installer dans le couloir laurentien veulent exploiter les ressources naturelles et faire alliance avec une partie de la population autochtone pour exploiter les ressources naturelles, eh bien, ce qu'on se trouve à proposer aux Premières Nations, c'est de devenir des colons, donc de servir le projet du colonisateur. Et ce n'est que plus tard, selon Alain Deneau, au 19e siècle, que là, bon, on va les mettre dans des réserves, on va également utiliser une force beaucoup plus importante contre eux, qu'ils vont passer dans un statut de colonisés. Donc, une réflexion qui a l'avantage de susciter des débats. On peut être d'accord ou pas d'accord, on peut trouver que ça prendrait des nuances, mais dans tous les cas, je pense qu'on trouvera assurément que c'est une réflexion qui est intéressante et qui a le mérite de nous amener à réfléchir sur le colonialisme, sur les rapports des Canadiens français avec l'Empire français, l'Empire britannique et avec les Premières Nations. Et dans la deuxième partie de son ouvrage, Alain Deneau développe davantage sur certains exemples. Et ces exemples-là, eh bien, je vais vous faire languir un petit peu, puisqu'on va en reparler après la pause publicitaire. Il parle notamment, bon, de la famille Irving, mais également, bon, du Congo de Léopold II, aussi surprenant que ça puisse paraître. Et donc, on en reparle dans un instant.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses? Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne. Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Parfois, l'actualité peut sembler nébuleuse, confuse, opaque et peut mener à des questions du genre « C'est qui ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en parle? » Chiz 94.3 a la solution miracle pour toi. Écoute Un fort dans le midi tous les jours en semaine dès midi. Avec Guillaume Bédard et son équipe, on est là pour t'éclairer sur les enjeux d'actualité. Avec des chroniques, des analyses, des entrevues, du contenu pertinent et recherché. Un fort dans le midi, c'est ta quotidienne d'actualité pour tout savoir et tout comprendre sur les ondes de Chiz 94.3.
Bonjour, ici Navet Confi et vous écoutez Chiz.
Toujours sur les ondes de Chiz 94.3, comme vient de vous le rappeler Navet Confi. Vous êtes toujours en compagnie d'Alex Tremblay-Lamarche, amateur de littérature pour une heure de livres et de musique francophone. Juste avant la pause publicitaire, on parlait de bande de colons, une mauvaise conscience de classe d'Alain Deneau. Et je vous avais promis qu'on reparlerait de deux exemples intéressants, notamment bon, le Congo de Léopold II. Ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'Afrique connaissent l'histoire de la malheureuse histoire du Congo. Ceux qui connaissent moins, eh bien, ouvrez bien vos oreilles puisque ce dont je vais vous parler est assez terrible. Léopold II était roi de Belgique au milieu du 19e siècle jusqu'au début du 20e. Et il va se retrouver à une époque où on se découpe littéralement l'Afrique en Europe et il va réussir à tirer son épingle du jeu et ramasser le Congo, où il va appliquer un colonialisme particulièrement violent et pour en tirer des profits particulièrement rentables. Et ce qui va susciter une critique internationale qui va amener notamment à Léopold II à devoir abandonner la colonie du Congo qu'il possédait comme son bien propre pour la céder à la Belgique. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien, c'est parce que cet exemple-là, qui est probablement l'un des pires exemples de ce que peut être le colonialisme, eh bien, il est évoqué par Alain Deneau dans son ouvrage, dans l'un de ses chapitres, dans lequel il pose la question « Un Congo de Léopold II réussi? Est-ce que le Canada ne serait pas un Congo réussi? » La question est un peu audacieuse et provocante, mais intéressante. Léopold II, il a comme livre de chevet un ouvrage qui traite de la colonie de Java en Indonésie, dans laquelle, eh bien, on montre un petit peu comment dominer un pays, comment, bon, arriver à une colonie qui va être efficace. Et au final, au Canada, eh bien, Alain Deneau nous montre qu'on est arrivé à demeurer une colonie sans avoir de colonisateurs, à être au final une bande de colons. Le simple nom de Dominion qui s'impose en 1867 met de l'avant qu'on reste un territoire sous la domination d'un pays. Dominion qui est divisé à la base en quatre provinces, province qui vient du latin pro victis, et qui, donc, pour les vaincus, et un Dominion également où les compagnies privées britanniques, comme notamment la compagnie de la baie d'Hudson, ont un pouvoir particulièrement important et qui dépasse dans bien des cas le pouvoir politique du jeune Dominion. L'exemple suivant dont j'ai envie de vous parler, dont Alain Deneau nous parle dans l'ouvrage, c'est ce qu'il appelle une colonie dans la colonie, l'Irvingny. C'est un néologisme qu'il crée pour parler de la puissance de la famille Irving. Vous connaissez assurément la famille Irving pour ses stations-service et sa participation à l'industrie pétrochimique. Mais ce que vous connaissez probablement moins, c'est que bon, c'est également une famille qui est présente dans l'exploitation forestière, dans les camions, dans les fermes. Elle possède tous les journaux du Nouveau-Brunswick anglophone, qui possède des navires, qui possède des trains, qui est dans l'industrie de la construction, qui est également, bon, du côté politique. Et donc, c'est la cinquième famille la plus riche au Canada, le principal employeur de l'Est canadien, parmi les cinq principaux propriétaires fonciers en Amérique du Nord. Et donc, dans ce contexte-là, on se retrouve avec une famille qui se retrouve avec un pouvoir particulièrement important, comme l'expose Alain Deneau, qui lui permet de gérer une colonie dans la colonie où, au final, elle a un pouvoir de colonisateur, dans une certaine mesure, dans l'Est du Canada et même dans l'ensemble du Canada et même aux États-Unis. En 1996, dans le Maine, il va y avoir un référendum pour interdire la coupe à blanc et les Irving vont s'investir particulièrement ardemment dans ce référendum pour qu'ils soient battus et qu'ils puissent continuer à mener leurs industries de coupe forestière. Également, quand il va y avoir des intellectuels qui vont remettre en question l'utilisation du glyphosate par les entreprises forestières d'Irving, on va voir qu'ils vont rapidement être licenciés. Donc, un ouvrage qui est dans la suite des travaux d'Alain Deneau, qui, comme ses travaux précédents, continue à réfléchir sur les questions de classe sociale, sur les questions de pouvoir, et que je vous invite à lire si vous voulez réfléchir un peu. Ça se lit bien, des chapitres quand même assez courts, qui sont toujours accessibles, et qui, comme je le disais, on n'est pas nécessairement toujours d'accord avec ses conclusions, mais dans tous les cas, on est heureux d'avoir été amené à réfléchir sur les éléments qu'il nous présente. Et sur ce, je vous propose qu'on aille en musique avec une chanson d'un jeune artiste québécois qui me plaît particulièrement en vue de notre prochain livre qui va traiter d'un maniaque du tweet, donc du petit oiseau. C'est une chanson qui s'appelle « Les oiseaux du matin » de Pierre-Hervé Goulet. Pierre-Hervé Goulet a notamment remporté 6 prix au Festival de la chanson de Petite-Vallée il y a quelques années. Et depuis, il continue à rouler sa bosse. Cet ouvrage est issu d'un single du même nom et nous permet de découvrir sa voix et sa mélodie. Donc, je vous laisse en musique avec Pierre-Hervé Goulet, Les oiseaux du matin. Et juste après, on revient avec un ouvrage qui nous parle un petit peu de Trump. Plus de repas.
train qui revient, les oiseaux du matin. Je ne sais plus où je suis quand je me réveille la nuit, des pensées qui reviennent et qui sortent de scène, les crises de panique, la chaise électrique. Le train-train qui revient, les oiseaux du matin.
Toujours sur les ondes de Chiz 94.3, vous écoutez Chérie J'arrive et on a le plaisir aujourd'hui de parler littérature. Alex Tremblay, la marche à la barre en remplacement de Félix Duchesne. Et comme je vous le disais juste avant la pause musicale, j'ai envie de vous parler d'un ouvrage qui nous parle un peu de Donald Trump et qui nous pose la question, est-ce qu'on parle trop de politique américaine au Québec? C'est un ouvrage de la politologue Karine Prémont et de sa collègue professeure spécialisée en information, journalisme et communication publique, Marie-Ève Carignan. Elles sont toutes deux professeures à l'Université de Sherbrooke et elles ont toutes deux eu à se pencher sur le trumpisme à de nombreuses reprises. Vous avez probablement notamment vu Karine Prémont dans les médias, que ce soit Tout le monde en parle, à Radio-Canada ou dans de nombreuses autres plateformes. Et à la suite, justement, de la frénésie Trump, si je peux m'exprimer ainsi, elles ont eu envie de s'asseoir et de rencontrer une centaine de personnes qui soit œuvrent dans les médias, soit œuvrent, sont plutôt des spécialistes du côté de la politique, donc du côté davantage des chaires universitaires, de la chaire Raoul-Landurant, ou soit sont des spécialistes un petit peu plus des communications, une Colette Brin par exemple à l'Université Laval qui est une professeure bien connue ici en communication. Et elles ont eu envie de rencontrer ces gens-là et de jaser un peu avec eux et de leur demander bon, qu'est-ce que vous en pensez de la place que le Québec accorde aux États-Unis dans sa couverture de l'actualité internationale? Est-ce que les choses ont changé depuis l'arrivée de Trump au pouvoir? Est-ce qu'on donne trop de place à l'actualité américaine dans les médias au Québec? Et l'ouvrage qu'elle nous livre est particulièrement intéressant puisque c'est tout en nuances. On nous rappelle, bien entendu, que oui, effectivement, on a donné beaucoup de place à Trump, mais avant, il y avait un certain Barack Obama pour lequel le Québec avait quand même pas mal d'intérêt. Il y a également eu d'autres présidents américains. On pense notamment à Clinton, dont les frasques ont fait l'objet de nombreux articles au Québec. Des présidents également comme
comme Kennedy ou comme Reagan qui ont eu une bonne couverture médiatique ici. Et donc, oui, effectivement, il y a eu cet intérêt-là est plus ancien, mais il varie dans le temps. Ce ne sont pas tous les présidents et à toutes les époques qu'on a la même couverture médiatique. Elles font d'ailleurs remarquer dans l'ouvrage que les connaissances que les Québécois ont de la politique américaine se sont améliorées, puisque, bon, même si ce n'est pas à toutes les époques qu'on parle autant de la politique américaine dans les médias, il y a vraiment eu un moment Trump où il faisait tellement des choses qui étaient, dans certains cas, difficiles à expliquer, qui appelaient à connaître la mécanique politique, qu'on n'avait pas le choix d'aller vers des experts pour expliquer certaines choses. Et ça a amené effectivement une place accrue des experts dans l'espace public, et ça a également amené une meilleure connaissance de la population du système politique américain, qui serait capable, par exemple, de dire qui était le speaker à la Chambre des représentants sous Bill Clinton. À peu près personne. Et ce n'est pas parce que ça fait une trentaine d'années, mais plutôt parce que, bon, à l'époque, c'était pas une fonction qui était autant regardée, alors qu'aujourd'hui, bon, les gens un peu politisés vont connaître le nom de Nancy Pelosi et vont même être capables de la situer brièvement dans l'échiquier politique américain. Paul Hood, par exemple, qui couvrait l'actualité politique américaine dans les années 1976, disait qu'à l'époque, il devait même expliquer ce qu'était le Congrès. Donc, on partait de loin. Les Québécois n'avaient pas nécessairement énormément de connaissances en politique américaine, alors qu'aujourd'hui, ils en ont davantage. Donc, cet intérêt-là accru, comme l'explique Karine Prémont et Marie-Ève Carignan, il est dû en partie à Trump, mais il est dû aussi à d'autres facteurs. Les Québécois sont à la fois distants et proches des États-Unis. Ils s'y intéressent plus que le reste du Canada, probablement parce que, bon, leur économie est directement liée, mais aussi parce que, bon, la langue est différente et que, ben, on est dans un rapport d'altérité, un rapport de proximité. Vous connaissez probablement, si ce n'est pas vous-même votre cas, un Québécois qui est allé aux États-Unis à de nombreuses reprises dans sa vie, que ce soit pour des vacances au Maine ou des vacances en Floride ou tout simplement une fin de semaine à New York ou à Boston. Il y a vraiment une proximité qui explique ça. Et qu'est-ce qui amène à aller toujours vers les mêmes experts québécois pour parler de politique américaine? Eh bien, c'est en partie cette même barrière de la langue qui crée, bon, à la fois un rapport distant et proche de la politique américaine. Lorsque on regarde qui est appelé dans les stations de radio, dans les émissions de télé, bien, on se rend compte que c'est principalement des Québécois pour parler de politique américaine, parce que c'est plus pratique que de traduire quelqu'un. Par contre, lorsqu'on regarde du côté des médias écrits, eh bien, on se rend compte que là, il y a une place plus importante des commentateurs américains, puisque c'est plus facile de les traduire. Et cette proximité, cet intérêt-là pour la politique américaine, eh bien, Karine Prémont et Marie-Ève Carignan, bon, nous disent d'y faire attention dans une certaine mesure. Est-ce qu'il ne se fait pas au détriment de la couverture de l'actualité nationale? Qui se souvient, par exemple, en 2012, de la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada et du Parti québécois. Ce sont deux événements qui, de leur avis, auraient dû avoir beaucoup plus d'attention médiatique qu'ils n'en ont eu, alors que les yeux étaient rivés du côté de Trump et encore Trump. Et donc, elle nous met en garde tout en saluant effectivement l'intérêt des Québécois pour la politique américaine. Elle nous parle également des liens qui se font entre les États-Unis et le Québec, que ça soit effectivement, bon, sur le plan politique, à peu près tous les politiciens québécois, à la suite du succès d'Obama, vont tenter de se coller à lui, de dire « Ah, ben moi, je m'inspire de sa démarche. » Trudeau va acheter le logiciel de gestion de campagne électorale de Barack Obama pour être capable de cibler finement la population. Macron va également faire la même chose. Il y a également des influences sur le plan politique. Le mouvement Canon qui va s'exporter ici, un certain populisme pour le meilleur et pour le pire. Le mouvement Black Lives Matter, le George Floyd. Donc, l'intérêt des Québécois pour la politique américaine va bien au-delà, effectivement, de Trump. C'est un ouvrage qui qui risque de vous plaire si vous vous intéressez à l'actualité politique, si vous vous intéressez aux États-Unis. Il a l'avantage d'être assez léger à lire. Comme je vous le mentionnais, il est basé sur une centaine d'entrevues qui ont été faites avec différents spécialistes que vous connaissez probablement, entre autres. On va justement chercher leur opinion lorsque nécessaire pour appuyer différents éléments qui sont apportés. Donc, une belle réflexion sur le rapport que les Québécois ont avec les États-Unis et la place que les États-Unis occupent dans l'actualité québécoise. Et sur ce, je vous propose qu'on retourne en musique avec une chanteuse que j'aime beaucoup, Fishback, qui est une chanteuse française d'une trentaine, un peu moins d'une trentaine d'années. Elle a fêté ses 30 ans cette année, pardon. Fishback, elle se prénomme Flora Fishback, j'ai eu un petit blanc, et elle a décidé de choisir comme nom de scène son nom de famille seulement, puisqu'elle voulait se dissocier son personnage de scène et la chanteuse en elle de sa personne en entier, parce qu'elle propose quelque chose d'un peu plus obscur dans ses chansons, quelque chose qui est assez envoûtant, comme on va l'entendre dans un instant avec Mortel, qui est issu de son premier album, À ta merci de 2017.
Thank you. Bonjour, ici Cœur de Pirate et vous écoutez Chérie J'arrive sur Chiz.
Toujours sur les ondes de Chiz 94.3, vous écoutez Chérie J'arrive et vous êtes en compagnie d'Alex Tremblay-Lamarche en remplacement de Félix Duchesne. Je vous ai préparé aujourd'hui une émission pour les amateurs de livres, les amateurs de littérature, parce que c'est pas vrai qu'on va s'ennuyer pendant le temps des fêtes. Au contraire, on va se gâter en se faisant de grosses piles de livres à dévorer. Maintenant, j'ai envie de vous amener vers quelque chose d'un peu plus léger. On a parlé d'ouvrages qui nous amenaient à réfléchir au cours des premières minutes de cette émission. Maintenant, j'ai envie de vous amener dans quelque chose qui parle d'une des fiertés québécoises et qui nous amène également en région. Un ouvrage qui s'intitule « L'aviation commerciale au Québec de 1950 à aujourd'hui, une histoire remplie de défis ». C'est publié aux éditions Gide sous la plume de Normand Chouinard. C'est un sujet qui peut sembler peut-être un petit peu paradoxal à l'heure où on parle de fermer les frontières, mais qui est plus que jamais d'actualité puisque ça nous rappelle que le développement de l'aviation commerciale au Québec, eh bien, c'est pas quelque chose qui est né à l'international, mais c'est quelque chose qui est né en région. C'est vraiment les premières compagnies d'aviation commerciale. Elles naissent à Matane, Rimouski, à Gaspé. C'est vraiment au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, comme l'exprime Normand Chouinard dans son ouvrage, il y a une volonté de la part de régions éloignées où on extrait des ressources, mais qui se trouvent un peu loin du monde, de faciliter les transports, faciliter les communications et se rapprocher des grands centres urbains. Et c'est ce qui va amener plusieurs personnes à fonder des compagnies aériennes pour le déplacement de passagers au Québec. Ces personnes-là, eh bien, Normand Chouinard nous les présente. C'est notamment Michel Pouliot, qui est le fils du docteur Pouliot, ministre de Duplessis, député de la Gaspésie. Et comme le docteur Pouliot doit fréquemment être à Québec pour siéger à l'Assemblée législative, l'ancien nom de l'Hôtel du Parlement, eh bien, il va faire l'acquisition d'un petit avion qui lui permet de se déplacer plus rapidement. Et son fils, qui, bon, arrive au début de la vingtaine et qui se cherche un petit peu quoi faire, va s'intéresser au domaine de l'aviation, va devenir le pilote de son père et va voir dans ce domaine vraiment beaucoup de potentiel. Et donc, à 20 ans, il va créer le Transgaspésien Aérien Limité, une compagnie qui vise à relier les différentes villes de Gaspésie entre elles et un petit peu vers les grands centres urbains. C'est quand même assez impressionnant de voir que c'est un kid de 20 ans, j'aurais envie de dire, qui va être derrière ça. On suit également la trace de d'autres personnes qui fondent des compagnies aériennes. L'une des premières compagnies aériennes créées au Québec est le fait d'une femme, Elspeth Russell, et de son mari, Jerry Burnett, qui vont fonder la Matane Air Service en 1947. Parallèlement, eh bien, il y a Québec Air qui est surtout connu pour avoir été mis en musique par Charles Bois dans sa fameuse chanson Lindbergh, mais qui, pour les plus jeunes, a été une compagnie aérienne assez importante dans les années 1950, 60 et 70. C'est une compagnie qui est née à Rimouski, qui va prendre de l'expansion grâce au mania Jules A. Briand, qui possédait pratiquement toute la ville de Rimouski, comme le mit de l'avant Richard Saint-Don dans son ouvrage sur Jules A. Briand. Et ce faisant, eh bien, on fait un petit clin d'œil au premier attentat dans l'histoire de l'aviation civile, l'affaire de Saute-au-Cochon, où un horloger de Québec, en fait, va mettre une bombe dans l'avion pour se débarrasser de sa femme. Il espérait que la bombe saute au moment où l'avion serait au-dessus du fleuve et que, bon, on ne fouille pas la carlingue de l'avion parce qu'il n'y a pas de raison de soupçonner que la cause de l'accident puisse être autre qu'un problème technique. Malheureusement, un petit retard va amener l'avion à sauter au-dessus de Saute-au-Cochon sur la côte de Beaupré. Et donc, on va fouiller la carlingue et découvrir le poteau rose. On n'en parle pas beaucoup, mais on y fait un petit clin d'œil. Ce dont on parle beaucoup, c'est surtout eh bien, du choc pétrolier des années 80 qui va amener plusieurs de ces compagnies-là à en arracher un peu, puisque avec l'augmentation du prix du carburant, eh bien, ça va causer en fait des pépins à plusieurs d'entre elles. Parallèlement, eh bien, on va avoir d'autres compagnies qui vont
pardon, se développer. Nationair en 1984, Royal Aviation en 1991, mais surtout Air Transat qui va se développer à partir des... la fin des années 80, début des années 90, 87, si je ne m'abuse, notamment grâce à un certain François Legault, le nom vous dit peut-être quelque chose. Et c'est une compagnie qui existe toujours, qui a su se démarquer, comme on l'apprend, grâce à l'appui du FTQ, mais aussi grâce à l'acquisition d'agences de voyage. Et donc, en faisant alliance avec ces agences de voyage-là, eh bien, Air Transat était capable de se démarquer de la concurrence. C'est un ouvrage qui nous parle en fin de parcours d'Air Canada, trop peu à mon goût. Je pense que l'auteur désirait principalement mettre de l'avant l'histoire des compagnies d'aviation au Québec, mais reste quand même que même si Air Canada émane plus du gouvernement fédéral parce que ça a été une compagnie publique au même titre que, par exemple, Hydro-Québec l'est pour le Québec pendant longtemps avant d'être privatisé, eh bien, j'aurais aimé en avoir un petit peu plus sur Air Canada dans cet ouvrage. Si vous vous intéressez à l'histoire de l'aviation au Québec et si vous vous intéressez à l'histoire régionale, c'est un ouvrage qui risque de vous plaire. Et sur ce, on s'en va en publicité avant de clore avec le dernier ouvrage.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Dernière heure. Nous venons d'apprendre une nouvelle que la population québécoise attendait depuis très longtemps. Il semblerait que dès demain, toute la province aura...
Ça vous laisse sur votre faim de pas savoir c'est quoi la nouvelle que tout le monde attendait? Imaginez pas savoir si vous allez manger ce soir. Personne ne devrait rester sur sa faim. La Guignolée des médias vous invite à donner chez Jean Coutu, Provigo et Maxi ou à guignolée.ca.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre planète et stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
T'as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile! Suffit d'écouter le Démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flow des sorties musicales. Écoute Démineur, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs dès 21h sur les ondes de Chiz 94.3.
Tu me connais trop bien, tu me connais trop bien. Une autre
Toujours sur les ondes de Chiz 94.3, vous écoutez Chérie J'arrive en compagnie d'Alex Tremblay, La Marche, amateur de littérature, chroniqueur à la barre de la chronique Histoire de lire. Je suis en remplacement de Félix Duchesne pour vous parler de littérature à la veille des fêtes. On vient d'écouter Gab Bouchard, jeune artiste originaire du lac Saint-Jean, la chanson Triste pareil, non en fait Tu me connais trop bien, pardon, qui est issu de son premier album Triste pareil, lancé en 2020, qui malheureusement parle d'une peine d'amour, mais une peine d'amour qui, comme vous le constaterez en explorant les autres pièces de son album, nous a quand même permis d'avoir plusieurs beaux morceaux de musique. Et sur ce, eh bien, je vous propose d'explorer un dernier ouvrage avant qu'on se laisse. Un ouvrage qui est à la fois plein d'espoir et plein de crainte. Un ouvrage qui est à la fois très actuel tout en étant chose du passé pour beaucoup de gens, même si c'est pas vrai. C'est un ouvrage qui vient de paraître chez Boréal et qui s'intitule « Le deuil et la lumière, une histoire du sida » de Yannick Villedieu. Yannick Villedieu, plusieurs d'entre vous le connaissent, d'autres peut-être un peu plus jeunes le connaissent moins. C'est un journaliste spécialisé en sciences et en médecine. Il a notamment été l'animateur des Années Lumière à Radio-Canada de 1982 à 2017. Et tout au long de sa carrière, il a eu l'occasion de couvrir l'apparition du sida, son développement et le développement des connaissances scientifiques qu'on a eues sur le sujet. Et il nous propose ici une histoire de cette maladie qui, embrasse une perspective mondiale tout en ayant, à cœur de mettre de l'avant, les recherches qui ont été faites au Québec et comment est-ce que ça a été vécu, notamment dans le village gay à Montréal. Et donc, pour peut-être vous mettre un petit peu en contexte et plonger dans l'ouvrage de Yannick Villedieu, le sida, c'est une maladie qui apparaît en 1981, la première fois qu'on est capable de l'identifier. Ça fait donc 40 ans cette année. Mais au début, comme le mentionne Yannick Villedieu, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est une maladie... En fait, ce qu'on trouve étrange, c'est que des jeunes homosexuels masculins aient des maladies extrêmement, extrêmement rares qui, normalement, sont plutôt des maladies qui vont du côté des gens dont le système immunitaire est pas en bon état, des gens qui viennent d'avoir une greffe et... qui sont particulièrement affaiblis. Et pourquoi est-ce qu'ils ont ces maladies-là? On ne comprend pas très bien. Et on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe ces gens-là développent des maladies très, très rares qui n'ont qu'un seul médicament pour le soigner qui est fabriqué à Atlanta. Lorsque les gens à Atlanta vont dire « Bien, attendez une minute, mais semble que vous êtes quand même pas mal nombreux à venir nous demander ce médicament-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose là, qui serait en train de se passer? » Et de fil en aiguille, eh bien, on va rapidement découvrir que c'est une maladie qui touche le système immunitaire. Dès 1982, on la renomme, on appelle ça le syndrome d'immunodéficience acquis, d'où le nom de SIDA, qui est un acronyme de la chose. Mais les connaissances qu'on a au début sont très, très fragmentaires. On ne comprend pas encore que ça peut être transmis par le sang et par le sexe. On pense que c'est une maladie qui touche seulement la communauté homosexuelle et que les hétérosexuels, ne peuvent pas vraiment être touchés par cette maladie-là. Puis, de fil en aiguille, eh bien, on comprend un peu mieux ce que c'est. On comprend que ça peut être transmis par le sang. Il va y avoir des scandales, notamment au Canada, de gens qui vont être contaminés par le sida en raison de transfusions sanguines, de sang contaminé, qui vont être réglés là, de nombreuses années après en cours. On va également se rendre compte que c'est une maladie qui touche aussi les populations hétérosexuelles lorsqu'on va se ramasser avec une épidémie de sida en Afrique et également un petit peu partout dans le monde entre En 1995, le sida est la principale cause de mort des 25 à 44 ans aux États-Unis. Et en 2002, c'est la principale cause de mort des 15 à 59 ans partout dans le monde. Donc, le sida va tranquillement devenir non plus la maladie, effectivement, qui était dans le village gay pour certaines personnes, mais va devenir une maladie particulièrement virulente qui va toucher un petit peu partout dans le monde l'ensemble des populations et la principale cause de mort chez les jeunes. Et donc, c'est une maladie sur laquelle on va mettre beaucoup de ressources après avoir fait des premières recherches scientifiques dans les années 80, avoir tenté de comprendre qu'est-ce que c'est. Eh bien, on va tranquillement aller vers la sensibilisation, aller vers la création de symboles comme le ruban rouge au début des années 90. On va également, tranquillement tenter de démystifier la maladie, tenter de lever les stigmates qu'il y a sur la maladie, parce que on va avoir l'impression, on sait pas trop comment ça se transmet au début, et donc il y a certaines personnes qui en viennent à avoir peur de toucher les sidatiques. Pour les 25 ans de la découverte du sida, Yannick Villedieu avait proposé à son réalisateur d'aller faire un reportage partout dans le monde pour retracer l'histoire du sida. Et donc, il a fait Montréal, il a fait la Californie, il a fait l'Inde, il a fait également Paris. Et en Californie, il nous rapporte qu'il a pu parler avec des soignants qui ont été témoins d'assiettes. Lorsqu'ils allaient voir les malades du sida, eh bien, ils trouvaient les plateaux repas qui avaient été abandonnés à la porte des chambres parce que les gens n'avaient pas osé rentrer dans la chambre pour aller porter les plateaux repas des malades qui étaient complètement souillés, qui étaient laissés à l'abandon, laissés à eux-mêmes parce que les soignants avaient peur et ne voulaient pas s'en approcher. C'est une histoire qui est touchante, qui est intéressante parce que ça permet de décrypter le sida. Et pour la génération, je dirais, des 20 à 30 ans, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que le sida, c'est la maladie d'une autre génération. Celle, effectivement, des 40 à 60 ans aujourd'hui, voire des 40 à 70 ans, et que le sida aujourd'hui a disparu et qu'on n'a plus vraiment de raison de s'en inquiéter. Or, Yannick Villedieu et le docteur... Régent Thomas, est interrogé dans le livre, nous rappelle que le sida fait encore de 700 000 à 1 million de morts par année au Québec et que c'est une maladie qui continue effectivement à faire des dégâts. Et donc, c'est un ouvrage qui, je dirais, est entre l'espoir et la crainte. On termine l'ouvrage avec, en parlant du patient de Berlin et du patient de Londres. C'était deux patients qui avaient le sida et qui avaient également le cancer. Et en faisant leur traitement contre le cancer, est-ce que c'est la chimiothérapie? Est-ce que c'est autre chose? Soigner leur sida. Donc, est-ce qu'on va tranquillement, éventuellement, aller vers un traitement qui permet de soigner le sida? Parce qu'actuellement, il existe un traitement, mais ce traitement-là, justement, rend le sida inactif, si je peux m'exprimer ainsi. Les gens qui connaissent mieux la chose, pourront compléter en lisant l'ouvrage. Mais en fait, ceux qui connaissent moins... pourront compléter en lisant l'ouvrage où c'est très bien expliqué. Moi, je ne m'embarquerai pas dans les détails médicaux, mais je préfère rester plus du côté historique et vous parler de l'intérêt de l'ouvrage. C'est un ouvrage qui est intéressant puisque Yannick Villedieu était à la rencontre de plusieurs personnes qui étaient dans le milieu gay dans les années 1980 à Montréal. Et vraiment, l'arrivée du sida a été une douche froide pour la communauté homosexuelle à Montréal dans les années 1980. Il faut se remettre dans le contexte. Il y a une libération sexuelle au Québec dans les années 1960, plus 70. Il y a une décriminalisation de l'homosexualité. On n'est pas encore dans une acceptation totale, mais il commence à avoir quelque chose qui se passe et à avoir des bars gays, des commerces gays, un village gay qui se forme à Montréal. Et donc, il y a un grand vent de liberté. Il y a un sentiment qu'on peut avoir les relations sexuelles qu'on veut et pouf, du jour au lendemain, arrive ce que que la communauté homosexuelle va appeler la maladie des Américains. Régent Thomas se souviendra toujours de ce jeune homme qui, en 1982, est arrivé dans son bureau fort affaibli, qui lui disait « j'ai la maladie des Américains » parce que bon, on ne savait pas encore exactement ce qu'était le sida. Et ça va vraiment frapper la communauté homosexuelle d'une chape de plomb. Et bon, ben, le parti est fini. Dorénavant, effectivement, bon, cette maladie-là tue. On comprend pas encore exactement comment dans les années 80, donc ça va prendre du temps avant que la communauté se relève, comprenne ce que c'est, comprenne qu'est-ce qu'elle peut faire, effectivement, pour s'en protéger. Donc, un ouvrage qui risque de plaire autant à ceux qui s'intéressent aux journalistes scientifiques qu'à ceux qui s'intéressent à l'histoire de la communauté homosexuelle, qu'à ceux qui s'intéressent à l'histoire des pandémies et des épidémies de manière plus large. C'est un ouvrage qui, je dirais, est rempli quand même d'une certaine espoir à l'heure où le gouvernement Legault vient de rajouter des contraintes face à l'arrivée du variant Omicron et que, bon, ben, on se demande bien quand est-ce qu'on va en finir avec cette foutue pandémie de COVID-19. Eh bien, on espère que ça ne prendra pas une quarantaine d'années comme ça a pris pour le sida avant que, bon, on commence à avoir des premiers cas de sida qui se sont soignés. Mais on espère être capable d'arriver à des traitements, tout comme ça a été le cas pour le sida, rapidement, et des façons d'enrayer la maladie. Donc, c'est un ouvrage qui est particulièrement d'actualité, malheureusement et heureusement, j'aurais envie de dire. C'est un ouvrage qui démystifie également certains mythes. On a longtemps dit que le patient zéro, c'était un Québécois, Guétan Dugas, qui était un agent de bar qui donc voyageait d'une ville à l'autre en avion. Il y avait des relations sexuelles et qui a longtemps été diabolisé en disant « c'est de sa faute si le sida s'est répandu partout sur le monde parce qu'il avait le sida et il a eu des rapports sexuels à gauche, à droite, dans différentes villes et ça a amené le sida à se disperser partout dans le monde. » Yannick Vidieu nous dit non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le patient zéro. Il y avait des patients avant lui, même si Guétan Dugas n'avait pas eu ses rapports sexuels partout, aux États-Unis principalement, eh bien, le sida se serait quand même répandu partout dans le monde. Et donc, un ouvrage qui se lit bien, des chapitres quand même assez courts. On sent effectivement que le journaliste n'est pas très, très loin derrière la plume de Yannick Villedieu. Un ouvrage que je vous encourage à lire. Et sur ce, je vous propose qu'on se quitte en musique avec une œuvre de Georgette, Pareil amour. Georgette, eh bien, pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien, elle se nomme en réalité Émilie Scarran. Et elle a œuvré pendant 8 ans au sein du groupe montréalais Motel Raphaël et elle nous propose un premier EP intitulé Funny Girl, duquel est issu Pareil amour. Et donc, on vous laisse là-dessus et on vous souhaite un très joyeux temps des fêtes.
J'ai pas fait exprès d'appeler ce soir. J'ai bu trop de vin blanc. Mais maintenant que je t'ai au téléphone, j'ai quelques petites questions. J'ai vu ta nouvelle flamme sur Instagram. Je sais que t'as toujours aimé le nom Roxane. C'est pas que je suis jalouse, mais je suis seule. Et si tu m'as jamais aimé, peux-tu me rassurer? Dis-moi ce que tu goûtes quand tu l'embrasses. La rêvais-tu comme tu m'as réveillé avant? Je sais que notre moment est passé, mais donne-moi de l'espoir. Dis-moi qu'un jour je vais. Avoir répondu à l'appel, c'est pas.
toi toute la semaine dernière, sans trouver le courage de dessiner ton visage. J'ai croisé ta soeur au dépanneur, comme si la vie voulait me ramener à toi. Même si c'est pas bon d'entretenir de l'espoir, j'ai trop parlé déjà à toi, comment tu vas? Dis-moi ce que tu goûtes quand tu l'embrasses. La réveilles-tu comme tu me réveillais avant? Je sais qu'une autre maman est passée, mais donne-moi de l'espoir, dis-moi qu'un jour je vais revivre un pareil amour. Amour, 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 amour. Dis-moi ce que tu goûtes quand tu l'embrasses. La réveilles-tu comme tu me réveillais avant?
C'était Pareil amour de Georgette. Vous êtes toujours à Chiz 94.3 à l'antenne de Chérie J'arrive. Et on est déjà sur la fin. On a parlé aujourd'hui de littérature afin de trouver de quoi se désennuyer un petit peu pendant les fêtes et bon ben profiter quand même malgré tout des semaines de congés qui vont venir. Et donc on a parlé de Qui a peur des vieilles de Marie Charrel, publié aux éditions Pérégrine. On a également parlé d'Une histoire sociale de la prostitution, Montréal 1800-1850 de Marianne Poutanen, publié aux éditions du Remus Ménage. On a parlé de Bande de colons, Une mauvaise conscience de classe, un petit essai d'Alain Deneau publié chez Luxe. On a parlé de La Maison Blanche, Vue du Québec, la couverture des élections américaines par les médias québécois de Karine Prémont et Marie-Ève Carignan, publié aux éditions de La Presse. On a parlé de l'aviation commerciale au Québec de 1950 à aujourd'hui. Une histoire remplie de défis de Normand Chouinard, publié aux éditions Gide. Et enfin, on a parlé du Deuil et la lumière, une histoire du sida de Yannick Villedieu. C'était Alex Tremblay-Lamarche, animateur de 3600 secondes d'histoire et chroniqueur à Chérie J'arrive, qui vous souhaite de très très joyeuses fêtes et qui vous remercie d'avoir été avec lui pour la dernière heure et demie. On se quitte sur ces suggestions littéraires et je vous souhaite une belle et heureuse année, de belles et agréables fêtes, et on se retrouve en 2022 pour bien d'autres suggestions littéraires. Bonnes vacances tout le monde et à bientôt!
Say Christmas ain't Christmas till the world smiles again. Everybody knows Christmas ain't Christmas till the world smiles again. Christmas ain't Christmas, baby. Christmas will be
Du önskar dig att komma över, och jag vill inte komma över mig.
Baby, se här, det är mig helt uppen klar.
Baby, jag ber, jag dansar på en glasbord.
Jag gör det här för någon, jag gör det för en mån. Dansar upp på bordet, ge mig det jag väntar på. Som om jag gör nu och ingen har gjort det för.
Un proche, vivez avec une perte de vision, peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez INCA.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Passe devant, c'est bien fait. Le tir est le bon!
Vendredi 17 décembre, 19h, vos remparts sont en visite au Colisée Desjardins pour y affronter les Tigres de Victoriaville. Ne manquez pas l'avant-match en compagnie de Rick Loutier. Rempart contre Tigre, ce vendredi 19h, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
La fin de semaine arrive et vous avez besoin de suggestions pour accompagner votre souper du samedi? L'Espace JC est là pour vous donner des conseils et vous en apprendre plus sur les vins, bières et spiritueux. En compagnie d'experts, nous vous divertirons tout en humour et sans prétention pour votre plus grand bonheur. L'Espace JC, c'est tous les vendredis dès 22h seulement sur les ondes de Chiz 94.3.